Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Que nous raconte l'archéozoologie de la pêche des anciens et comment peut-elle inspirer celle des modernes? Avec Sandrine Grouard.
Comment et jusqu'où pêchait-on dans le passé, avant que la pêche ne devienne une industrie avec des bateaux fendant toutes les mers du monde? C'est ce que va nous révéler Sandrine Grouard. Vous êtes archéologue et maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors vous êtes experte de la pêche en milieu caraïbe dans les temps précolombiens. Comment est-ce que votre discipline, l'archéozoologie, procède-t-elle pour nous renseigner sur la pêche des anciens sur une période où les écrits n'existaient pas?
Alors l'archéozoologie, ça consiste à aller étudier les poubelles des populations du passé. On va aller étudier les déchets, on va aller étudier les restes d'ossements d'animaux qui sont dans ces zones de rejet, et on va aller chercher en particulier les poissons pour ensuite les identifier. Donc on va aller tamiser ce matériel. Il faut des tamis très fins, c'est tout petit les os de poissons, donc on tamise très finement avec de l'eau. Puis après, au laboratoire, on récupère ces résidus de tamis et on va les trier et on va les identifier à l'espèce ou au niveau du genre ou de la famille, on remonte un petit peu au niveau taxinomique. Et puis on va identifier aussi les parties anatomiques et ensuite à partir de là, on va pouvoir commencer à faire un peu des statistiques pour voir quelles sont les espèces privilégiées.
Que révèlent vos recherches sur les techniques de pêche des anciens, mais aussi sur leurs déplacements, leur artisanat, leurs pratiques culturelles et plus globalement leur connaissance du vivant?
Alors, les populations précolombiennes de la Caraïbe connaissaient parfaitement bien les fonds marins. D'abord, ils naviguaient beaucoup. Ils avaient une cartographie mentale des îles de l'archipel et ils voyageaient en pirogue qui permettait de contenir une cinquantaine de personnes. Et ils voyageaient d'île en île, donc ils avaient vraiment une très bonne connaissance des îles, mais aussi des fonds marins. Et donc du coup, ils connaissaient très bien les substrats des fonds marins, si c'était rocheux, si c'était sableux, si c'était avec des courants, quel type de courant. Ils connaissaient aussi les saisons, à quelle saison passent certains poissons pélagiques, comme les grands thons ou certaines carangues, qui sont des poissons que l'on retrouve dans la Caraïbe. Et puis, ils connaissent donc tout un tas de techniques de pêche pour pouvoir aller les choisir en fonction des saisons. Ils vont aller pêcher certaines espèces. Ils ont des outils pour ça. Ils ont des hameçons, arcs et flèches, des filets. Et on a retrouvé des outils, des engins de pêche liés à ces pratiques de pêche. Mais ce qui va nous permettre surtout de reconstituer les techniques de pêche employées, c'est les espèces qui ont été ciblées. Et à partir de ces espèces et la taille des individus, on va pouvoir estimer les écosystèmes et ensuite estimer les techniques de pêche.
Comment est-ce que les techniques de pêche ont évolué au fil du temps et quelles espèces de poissons étaient ciblées?
On peut observer en fait des changements au cours du temps, c'est-à-dire que les premiers précolombiens qui sont arrivés dans la Caraïbe vers 3500 ans à peu près se sont installés et pêchaient très très peu. Il y avait surtout des coquillages mais très peu de poissons et quelques oiseaux marins. Ensuite, les premiers céramistes qui sont arrivés donc dans leur pirogue, ils ont apporté avec eux des plantes domestiques en horticulture. Ils ont apporté aussi des animaux du continent, comme des rongeurs et des chiens. Mais surtout, là, ils se sont mis à pêcher. Et ils se sont mis à pêcher directement dans les eaux profondes, des gros poissons qui sont difficiles d'accès et qui nécessitent une pêche compliquée à mettre en place et qui nécessitent aussi d'être à plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut pas les pêcher tout seul. C'est vraiment une pêche collective. Et progressivement, entre l'an 900 et l'an 1000, il va y avoir un basculement et ils vont se rabattre plutôt sur les mangroves et les lagunes. Non pas qu'ils ne pêchaient pas avant déjà à ces endroits-là, mais ils en pêchaient moins. Et là, d'un seul coup, ce qui va apparaître, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de poissons de ces zones-là qui vont être pêchés, également des poissons de plus petite taille, donc plutôt des jeunes. Parce que les poissons ont un changement Au cours de leur vie, certaines espèces, en tout cas, vont naître en mangrove, comme les gorettes, les émulidés, certains vivanos, des lugianidés. Ils vont naître dans la mangrove et une fois qu'ils ont atteint une taille intéressante, ils vont partir sur le récif corallien. Et donc nous, par l'archéozoologie, on peut reconstituer les tailles des poissons et donc dire « Ah bah, cette petite gorette a été pêchée en mangrove ou celle-ci a été pêchée sur le récif corallien. » Donc du coup, ça nous permet, par les statistiques, hein, avec un nombre important d'individus de poissons, dire « Ah bah, cette population-là a plutôt été pêchée dans les mangroves. » Et donc, on peut constater au fur et à mesure du temps que les Amérindiens, progressivement, ont délaissé la pêche en haute mer, la pêche dangereuse sur les thons, par exemple, pour se rapprocher sur les petites espèces dans les mangroves et les lagunes.
Ce que vous me dites au début, c'est qu'ils avaient une très fine connaissance du milieu et qu'ils avaient une grande pondération dans ce qu'ils pêchaient. C'était une vertu des anciens. Et là, ce que vous avez pu observer, c'est qu'il y a des phénomènes de surpêche chez les Amérindiens entre l'an 1000 et l'an 1400. Et par ailleurs, eu égard à la faiblesse de la population humaine d'alors, comment expliquer ces phénomènes de surpêche ?
On ne peut pas l'expliquer directement. On peut expliquer cela par un changement de vie, un changement de modèle économique. C'est-à-dire qu'au départ, ils risquaient gros, c'est-à-dire ils partaient faire une pêche qui permettait de rapporter beaucoup de grands poissons d'un seul coup, mais c'est une pêche à risque. Elle est dangereuse et on peut revenir bredouille. Donc il y a un risque économique et un risque humain. Et progressivement, ils passent à une non-prise de risque. C'est-à-dire qu'on peut aller dans la mangrove, toute la population du village peut participer à la pêche, les enfants, les vieillards. Mais on est certain de ramener du poisson, pour le coup. Mais c'est des petits poissons et ça prend beaucoup de temps. C'est très chronophage.
Est-ce que cette surpêche a affecté la biodiversité ?
Alors, c'est une légère surpêche. Ça n'a pas affecté les écosystèmes de manière drastique. Ce qui a vraiment affecté les populations de poissons, c'est l'arrivée des Européens qui, dès qu'ils sont arrivés, ont commencé à apporter d'autres techniques de pêche qui sont plus agressives, qui vont racler les fonds, ils vont surpêcher les zones de pêche côtières et ils vont provoquer la chute des tailles des poissons. Donc là, on se retrouve qu'avec des tout petits individus. Au temps précolombien, par exemple, on retrouvait des poissons perroquets qui pouvaient faire 1,20 m de long, d'après la taille des os. À partir de la période coloniale, on n'en retrouve plus. Ils ont disparu, tous ces gros poissons.
Ça se fait d'un coup, dès le XVIe siècle et l'arrivée massive des colons, ou c'est petit à petit, et quelles conséquences, là pour le coup, sur les écosystèmes ?
Alors ça se fait pas d'un seul coup, sauf pour quelques grandes espèces phares, comme les mammifères marins. Le lamantin, par exemple, au XVIIe, est déjà extrêmement surexploité. Il n'est pas totalement éteint. Il est disparu de la région, c'est-à-dire qu'il s'est réfugié en Floride, sur le Belize et dans les Guyanes. Donc l'espèce existe encore, mais il n'existe plus du tout dans les Petites Antilles, dès le XVIIe, XVIIIe. Et par contre, le phoque moine de la Caraïbe, qui est un autre mammifère marin, a été, lui, tellement surexploité qu'il est totalement éteint. Il s'était réfugié sur un petit banc au large de la Jamaïque et en fait, il est totalement éteint depuis 1952.
Pour terminer cet épisode, un grand bond dans le temps, parce que ce qu'on a entendu avec vous, c'est que là où les anciens partaient de leurs besoins en poissons, les modernes partent de l'offre. Quelles conséquences ce renversement des pratiques halieutiques produit sur les écosystèmes marins et sur les populations locales ?
Alors à l'heure actuelle, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des pêcheurs des îles avoisinantes qui viennent dans les zones de pêche. Donc il y a des conflits entre les pêcheurs des îles anglo-saxonnes, françaises, espagnoles. Ces conflits dégénèrent parfois. Et puis il y a surtout des grands bateaux industriels qui sont arrivés dans la Caraïbe, des bateaux asiatiques, et qui raclent tous les fonds. Du coup, il y a une vraie surpêche qui s'est installée avec quelque chose qui est irrévocable maintenant. C'est-à-dire que les écosystèmes sont profondément bouleversés et on ne pourra pas retourner à l'équilibre qui existait avant l'arrivée des Européens, ça c'est certain, mais même pas avant 1950. C'est-à-dire qu'on est arrivé quand même à de la pêche industrielle qui est dramatique. On rentre dans une économie mondiale de consommation du poisson et des coquillages, c'est pas que le poisson, qui a des conséquences sur les dernières espèces de la région.
Je vois bien qu'il y a des choses qui sont irrévocables, qui ont déjà été enclenchées. Est-ce que, d'après vous, il est possible de revenir un peu à la sagesse des Amérindiens en termes de connaissance des milieux marins ?
Alors, on pourrait, si on commençait à écouter un petit peu les pêcheurs artisanaux, qui ont quand même des connaissances très, très importantes des fonds et des modes de vie des poissons. En fait, le problème, c'est pas tant la culture qui va influencer l'impact sur l'écosystème, c'est le temps et l'importance qu'on va passer dans cet écosystème à l'exploiter qui va le détruire à long terme. Donc si on arrêtait de surexploiter un écosystème, le récif corallien par exemple, il pourrait progressivement reprendre un équilibre, ça ne sera pas le même, mais il aura un autre équilibre. L'autre danger aussi, c'est les mangroves, c'est-à-dire qu'on assèche les mangroves pour éviter les moustiques, mais en asséchant les mangroves, on tue les nurseries de poissons, qui ne pourront pas se développer avant de partir sur le récif corallien. Donc là, il faudrait systématiquement empêcher le fait d'assécher les mangroves ou de les détourner ou de déverser les eaux des piscines des hôtels dans les mangroves, par exemple.
Par exemple, espérons qu'on écoute la sagesse des pêcheurs artisanaux avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Merci beaucoup, Sandrine Grouard.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Sandrine Grouard, archéozoologue, archéologue et maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.